Dans le manifeste du Parti communiste publié en 1848, Karl Marx et Friedrich Engels ont fait appel pour l'abolition de la famille. La famille, comme le capitalisme, va disparaître. Marx, voyez-vous, renie les principes bibliques en ce qui concerne la famille, en disant que ces principes n'étaient pas dans le meilleur intérêt de la société. Son idéal était un centre culturel où les institutions publiques remplaceraient le foyer. Aussi longtemps que l'institution de la famille reste ferme et garde son indépendance culturelle, disait-il, l'État ne peut pas avoir la suprématie totale. Il faut remarquer peut-être que lorsque les communistes ont essayé, et puis ils ont essayé cette philosophie de Marx, et puis rejeté, au moins en partie, parce qu'ils voyaient que ça ne marchait pas. Au début, ils ont facilité le divorce. Ils ont même encouragé la promiscuité sexuelle. De plus, les mères et les pères ont été séparés de leurs enfants et placés dans les communes de travail, et leurs enfants ont été mis sous la tutelle de l'État. Mais bientôt, ils ont compris que l'État était en danger. Ils ont compris que la famille est la base de la société ou de l'État. Et je vous donne cet exemple pour vous montrer que même dans les systèmes athées, la famille demeure importante pour la société, parce que la famille, c'est la base de la société. Et si la société est malade, cela voudra dire que les familles aussi sont malades. Il faut admettre et il faut dire que la famille, la première institution créée par Dieu, est menacée de plusieurs directions. Et je voudrais bien vous faire comprendre que je ne suis pas en train de dire que la famille comme institution va disparaître, pas du tout. Aussi longtemps que la parole de Dieu existe et que les hommes et les femmes la mettent en pratique, la famille, ainsi que toute autre institution créée par Dieu, va rester ferme ou va rester ou subsistera. Mais il y a des attaques contre la famille, et si nous ne faisons pas attention, ma famille et votre famille au moins vont souffrir et peut-être même sera anéantie. La tragédie d'aujourd'hui, c'est que sans compter l'influence des systèmes athées tels que le marxisme, les familles sont affaiblies. Un psychiatre a écrit il y a quelques années, « Le foyer n'est plus un cercle fermé et donc isolé du monde. Le monde l'a envahi par sa clameur et sa confusion. » Et cet envahissement a provoqué beaucoup de changements dans la famille. Et sur la feuille que je vous ai donnée, il y a trois changements que je veux mentionner. Et ce sont pour moi, si vous voulez, les changements les plus menaçants pour la famille d'une longue liste que j'ai trouvée dans plusieurs endroits. Premièrement, il y a l'accroissement dans le nombre de divorces. Par exemple, aux États-Unis, en 1870 ou 1870, il y avait un divorce pour tous les 34 mariages. Actuellement, il y a un divorce pour tous les 3 mariages. Et en Californie, où habitent mes parents, il y a un divorce pour tous les 2 mariages. Et en France, cela devient presque aussi mauvais. Et je ne sais pas pour la Belgique, mais je sais en France, il y a un grand problème du point de vue de la famille. Et là où il y a le divorce, il y a des familles déstabilisées et bien sûr les enfants troublés. Mais un deuxième changement dans la famille est le déclin d'autorité parentale. Personne, par exemple, ne peut mettre en doute le déclin dans le rôle du père ou du mari dans la famille. Cela veut dire que l'influence des hommes comme mari et père est affaiblie ou n'existe pas du tout. Ce déclin dans l'autorité des parents ne se voit pas seulement dans le manque d'influence du père, mais aussi dans l'abdication des deux parents dans leur rôle de parents, dans leur autorité, en faveur d'une monarchie des enfants. Un observateur a remarqué, nos familles ont tendance à être préoccupées avec les enfants jusqu'au point où la vie des adultes comme parents est éliminée. Et il y a, par exemple, la Suède où maintenant, un enfant peut faire un procès contre son parent ou ses parents s'il lui donne une fessée. Voilà un exemple. Et le résultat de ce déclin dans l'autorité parentale se manifeste dans le trouble et la rébellion des enfants. Mais le troisième changement en ce qui concerne la famille que je veux mentionner, c'est un accroissement dans les rapports sexuels avant le mariage que la Bible appelle la débauche. Et en certaines traductions, vous trouverez le mot fornication. Ou un accroissement dans les rapports en dehors du mariage que la Bible appelle l'adultère. Deux des résultats de cet accroissement dans l'immoralité, sans parler des maladies physiques et émotionnelles, sont des milliers d'avortements pratiqués par des personnes insouciantes et trop lâches pour prendre la responsabilité devant la vie qu'elles ont créée, et soit des milliers d'enfants illégitimes nés chaque année, des enfants qui n'auront jamais l'occasion ou l'influence d'un foyer où les deux parents sont présents. Et sauf dans les cas exceptionnels, ces enfants, lorsqu'ils sont adultes, ils feront la même chose. De nos jours, nous constatons une obsession générale vis-à-vis du sexe comme devenant le moyen le plus sûr et le moins cher pour obtenir le bonheur, mais c'est faux. Ça coûte très cher, cependant, cette insouciance à l'égard de la dignité de la personne envers le partenaire, envers l'enfant, envers soi-même, et cette rébellion contre les bonnes mœurs que Dieu a créées attaque la stabilité du foyer parce qu'elle suscite la doute, le soupçon et le manque d'harmonie. Maintenant, il faut poser une question. Pourquoi ces changements sont-ils importants pour la famille? D'abord, parce que la famille est la base de la vie humaine, ou le commencement de toute vie humaine. Et ensuite, parce que la famille est importante, parce que c'est à partir d'elle que la personnalité humaine se façonne et que les humains ou les attitudes vis-à-vis de soi et des autres sont créées. C'est à partir de la famille que l'homme développe sa compréhension de l'univers et comment il y joue son rôle. C'est à partir de la famille que l'homme arrive à comprendre la société et comment il doit agir envers les autres. Et c'est dans la famille que les enfants arrivent à comprendre Dieu. Et bien sûr, s'il n'y a pas d'éducation spirituelle dans la famille, les enfants ne connaîtront pas Dieu. Et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui des adultes, anciens enfants, qui ne croient pas et bien sûr ne servent pas Dieu. Bon, si les familles sont menacées, et elles le sont, d'où vient cette menace? Il y a des changements que nous avons mentionnés, les trois que j'ai mentionnés, il y en a d'autres. Mais quelle est la racine de ces changements, sans compter les influences extérieures? Après avoir tout considéré, la racine, la plus grande responsabilité tombe sur les parents irresponsables. En Juda, par exemple, Abiyam, le petit-fils de Salomon, est devenu le roi à la mort de son père Roboam. Et dans cette histoire qui se trouve en Rois chapitre 15, le verset 3, nous avons un exemple de comment l'enfant suit l'influence de son parent ou de ses parents. Par exemple, nous lisons au sujet d'Abiyam, il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David. Et c'était la même chose en Israël du Nord, mais même pire. Tel père, tel fils. Vous avez tous vu, je crois, la publicité, je ne sais pas si ça se trouve en Belgique, mais en France, il y a un monsieur avec son chien, et la publicité dit « tel maître, tel chien ». C'est une publicité pour garder la ville propre, si vous voulez. Mais ça applique aussi dans la famille, tel père, tel fils. C'est-à-dire, l'enfant va faire ce que son père lui enseigne, ou il va faire ce que son père lui n'enseigne pas. Mais l'institution de la famille est menacée par les parents irresponsables qui permettent que ces changements arrivent dans leur foyer et y participent. Ce que Dieu a dit aux Galates, donc, est vrai pour la famille aussi. Par exemple, en Galates 6, le verset 7, l'apôtre Paul dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ce qui est bien, c'est que lorsqu'il y a des familles chrétiennes, leur influence dans la société est positive et non pas négative comme nous venons de voir. Et je vous présente une liste de 10 caractéristiques d'un foyer chrétien. Premièrement, dans une famille qui est vraiment chrétienne, chaque membre agit envers l'autre comme il veut que les autres agissent envers lui-même. Et vous trouvez ce principe énoncé par Jésus en Matthieu chapitre 7, le verset 12. Deuxièmement, pour chaque membre de la famille chrétienne, la soumission au Christ en toutes choses sert de fondement du foyer. Et troisièmement, la famille chrétienne rend un culte à Dieu en public et en privé. Mais qu'est-ce que c'est le culte? Quel est notre culte? Bon, on dit c'est l'adoration de Dieu. Oui, c'est juste. Mais en Romains chapitre 12, le verset 1, c'est plus qu'une adoration. Paul dit, « Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte ou un service raisonnable. » La quatrième caractéristique d'un foyer chrétien est qu'ensemble, les membres de la famille travaillent pour surmonter tout problème qui se présente. Ce n'est pas chacun pour soi. Et puis, cinquièmement, la famille chrétienne partage ses joies et ses bénédictions, aussi bien que ses fardeaux et ses tristesses. L'apôtre Paul a dit en Galates 6, le verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Sixièmement, le sentiment de faire partie d'un tout est une source vivifiante. Quelqu'un a dit, « La solitude est le sentiment le plus effrayant du monde. » Mais dans les liens familiaux d'un foyer chrétien, cette solitude est éliminée, cet handicap de solitude est éliminé et donne une liberté d'accomplir beaucoup de choses que l'on n'aurait pas pu accomplir seul. Septièmement, le père chrétien n'irrite pas ses enfants, mais les élève et les corrige en les avertissant selon le Seigneur. Je n'ai pas le temps de le dire, mais une chose qui m'a beaucoup impressionné dans mes études de la famille, c'est que le père est le responsable pour la vie spirituelle de sa famille, aussi bien que la vie matérielle. Et malheureusement, dans notre société, le père ne joue pas un grand rôle aujourd'hui. Nous avons, si vous voulez, très franchement, une société matriarcale. Huitièmement, peut-être on va traiter ce sujet, ce problème. Le fils... où les fils et les filles chrétiens obéissent à leurs parents selon le Seigneur. Et puis, dans un foyer chrétien, la neuvième caractéristique est la présence de l'honnêteté et de l'intégrité. Il n'y aura pas d'hypocrisie, mais une confiance absolue l'un envers l'autre. Et puis, dixièmement, dans la famille chrétienne, les parents prennent le temps d'écouter leurs enfants et de comprendre les choses que les enfants voient avant de prendre une décision. Et cela ne veut pas dire que les enfants vont prendre des décisions. C'est que les parents vont essayer de s'attacher aux sentiments et aux besoins de leurs enfants avant d'agir. Bon, je peux continuer à donner une longue liste de caractéristiques d'une famille chrétienne, d'un foyer chrétien, mais je m'arrête là avec les 10 que je vous ai donnés. Il suffit de dire que si le monde était rempli de familles chrétiennes, il y aurait beaucoup moins de mal, beaucoup moins de souffrance. Les familles chrétiennes sont vraiment le sel de la terre et la lumière du monde, comme chaque chrétien doit l'être. Les familles chrétiennes, donc, commencent avec ma famille et votre famille. Et notre but dans ces conférences est de nous aider tous à être les hommes, les femmes et les enfants de Dieu. Bon, j'ai divisé mon étude en deux parties. Et je vais parler maintenant du mariage, parce que je trouve que, bien sûr, c'est la base d'un foyer chrétien, d'une famille chrétienne. Et pour bien comprendre l'importance de la famille devant Dieu, il est primordial que nous comprenions bien le mariage comme Dieu l'a créé. Le mariage consacré à Dieu est la base d'une famille dévouée à Dieu. Comme deuxième titre donc à mon sujet de ce matin, je suggérerai le mariage et le dessein de Dieu. Tout d'abord, il faut comprendre et il faut faire comprendre que notre rapport fondamental avec Dieu est celui de soumission. C'est seulement en nous soumettant à Dieu que nous trouverons la joie, la paix, la victoire provenant d'une vie vécue selon la volonté de Dieu. Il faut donc que le Christ soit le Seigneur absolu de notre vie. Bien sûr, c'est la base de tout, pour la famille ou de la vie de tous les jours. Lorsque Dieu a créé l'institution du mariage et de la famille, il l'a fait pour le bonheur de l'homme et de la femme. Et à la création de l'homme, Dieu a vu que quelque chose n'était pas bon. Et donc, Dieu dit, c'est en Genèse 2, le verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Ainsi, avec la création de la femme, Dieu institua la première famille sur la terre. Le Proverbe 18, le verset 22 dit, « Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. » Et moi, je le crois. Dieu, donc, a créé le mariage, et de ce fait, nous lisons ce commandement en Hébreux chapitre 13, le verset 4. « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempte de ce lieu, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. » Il y a donc au moins quatre raisons bibliques pour le mariage. Premièrement, pour la procréation, avoir des enfants. Deuxièmement, pour que l'homme ait une compagne. Troisièmement, pour éviter l'immoralité, c'est-à-dire pour satisfaire aux besoins sexuels et émotionnels de l'homme et de la femme. Et puis quatrièmement, comme exemple du rapport que les humains doivent avoir avec le Créateur. Pourtant, dans la Bible, partout dans la Bible, le mariage sert comme exemple de notre rapport, de notre lien avec Dieu. Et il faut insister, je crois, sur le fait que toutes les grandes œuvres de Dieu sont associées avec le mariage et la vie de famille. Nous devons donc avoir un grand respect pour cette institution de Dieu. Et ce respect doit provoquer un changement de nos attitudes envers le mariage, envers la famille et bien sûr envers la société. Et plus important, ça doit changer notre attitude envers Dieu. Si nous avons un grand respect pour le mariage, nous aurons un grand respect pour Dieu. Et c'est ce que je veux souligner dans cette étude ce matin. Pourquoi donc faut-il avoir du respect pour le mariage? Premièrement, comme nous l'avons dit précédemment pour la famille en général, il faut avoir du respect pour le mariage parce qu'il est la base de la vie humaine. C'est là que la société commence. À la création, Dieu a compris le besoin de l'homme et il a dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Ainsi, il a créé la femme. Et ce fut là que la société prit naissance. L'homme, en voyant la femme, s'est exclamé, « Voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. » Et un commentateur a dit que littéralement, on pouvait le traduire, « Ouh là là, qu'elle est belle !»« Enfin, quelque chose qui est de la même nature que moi. » Et rappelez-vous que dans le contexte de ce passage, Adam, où Dieu l'avait présenté avec tous les animaux, et Adam a donné un nom à tous les animaux, et parmi ces animaux, il ne trouvait pas une aide semblable à lui. Et quand il a vu la femme, oulala, elle est belle. Elle est de la même nature que moi. Donc, Dieu a créé le genre humain, homme et femme, et avec le même souffle de création, il a ordonné à l'homme et à la femme, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Et ce fut donc le commencement de la vie humaine. Deuxièmement, il faut respecter le mariage parce que la famille est au cœur du dessein de Dieu pour la rédemption de l'homme. Après la chute dans le jardin d'Éden, et lorsque le péché devint une partie intégrante de la vie humaine, Dieu a choisi une famille, celle d'Abraham, et il a fait cette promesse. En toutes les familles, en toi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et plus tard, l'apôtre Paul identifie Jésus comme la postérité d'Abraham et par laquelle tout homme peut recevoir le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Et Dieu, dès ce début, dans son dessein du rachat de l'homme, a choisi une famille. C'est pourquoi Dieu a choisi la nation juive, parce que c'est la descendance, si vous voulez, d'Abraham, cette famille. Dieu aime, il console, il soutient, il discipline et il vit une union avec son peuple comme un époux. Et donc, troisièmement, Dieu, dans son rapport avec cette famille choisie pour la rédemption de l'homme, est souvent dépeint comme ou décrit comme un mari. Dieu lui demande la fidélité à son peuple. Il lui offre sa protection et sa bénédiction, ses bénédictions. Et quatrièmement, le Nouveau Testament continue cette même métaphore du mariage pour montrer la relation de l'individu ou de l'Église avec le Christ. Nous sommes l'épouse du Seigneur si nous sommes chrétiens. Les principes d'autorité et de soumission dans l'Église sont démontrés dans le mariage. Par exemple, en 1 Timothée chapitre 2, les versets 11 à 13, et aussi en 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, vous trouverez, si vous voulez, la ligne d'autorité que Dieu a établie pour les humains. Si vous voulez regarder le schéma que je vous ai donné, il n'y a pas tout là, mais ça commence avec Jésus, mais dans ces passages, ça commence avec Dieu. La lignée d'autorité, c'est Dieu, Jésus, homme, femme, enfant. Et Dieu a établi cet ordre pas seulement pour... il a établi pour avoir de l'ordre, pour avoir une lignée d'autorité, mais pas parce qu'une personne était inférieure à l'autre. Mais dans cette autorité, Dieu est suprême et Jésus lui est soumis. Mais Jésus a été établi Seigneur et l'homme lui est soumis. Et l'homme a été établi chef de la famille et sa femme et ses enfants lui sont soumis. En Éphésiens chapitre 5, si vous avez votre Bible, nous allons lire quelques versets dans un moment. Notre attention est rivée sur la personne du Christ et de son Église, qui est son corps. Et c'est à l'Église que toute personne est ajoutée en se soumettant à la volonté du Christ. On devient ainsi l'épouse du Seigneur. Malheureusement, dans notre monde actuel, parmi nos amis, parmi nos familles, même trop souvent parmi nos frères et sœurs en Christ, le mariage n'est plus tenu ou pris au sérieux. On dit le mariage c'est dépassé, c'est démodé. Mais celui ou celle qui dit cela doit logiquement dire que ce lien avec Dieu dont nous venons de parler doit aussi être dépassé, démodé. Après avoir étudié longtemps ce sujet, je suis plus convaincu que jamais de l'importance du mariage aux yeux de Dieu. Le mariage n'est pas seulement pour la procréation, pour donner à l'homme une aide semblable à lui, pour éviter l'immoralité, en bref, pour le bonheur des hommes et des femmes. La raison la plus importante pour le mariage, en plus que celle que je viens de citer, c'est que le mariage a été institué par Dieu comme exemple du rapport que les humains, que nous devons avoir avec lui. Si vous voulez savoir comment vous soumettre à Dieu, regardez comment la femme doit se soumettre à son mari. Et bien sûr, dans notre monde actuel, vous n'allez pas voir beaucoup d'exemples de cela. Et donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de monde qui ne croit plus en Dieu. Parce que les humains, les familles, ne sont plus des exemples que Dieu a destiné qu'ils soient. Si je comprends bien ma Bible, c'est ici qui se situe l'importance primordiale du mariage. C'est pourquoi trois des 10 commandements pour Israël parlaient du mariage et de la famille. Par exemple, honore ton père et ta mère, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. De souiller le lit conjugal, c'est-à-dire de commettre la débauche ou l'adultère, c'est de pécher non seulement contre une autre personne, envers soi-même et envers ses enfants, mais comme a dit le jeune Joseph, c'est aussi de pécher contre Dieu. C'est pourquoi Hébreux 13, le verset 4 dit, « Dieu jugera les débauchés et les adultères. » Et Jésus, en Matthieu chapitre 5, le verset 31 à 32, a dit, « Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Il faut donc faire très attention à notre attitude envers le mariage, parce que le mariage est pour la vie, c'est à jamais. Bien sûr, il y a des cas où cela ne peut pas continuer pour toute la vie, mais si possible, il faut, parce que c'est un exemple de notre rapport avec Dieu. Jésus a dit aussi que l'homme ne sépare pas donc ce que Dieu a uni. Le mariage n'est pas donc de vivre en compagnie de quelqu'un sans s'engager pour la vie, que l'on appelle couramment l'union libre le concubinage. Ce n'est pas ça le mariage, parce qu'il n'y a pas d'engagement à vie, parce que Dieu demande que ce soit pour la vie. Selon Dieu, le mariage est une alliance aussi ferme, aussi formelle que celle qu'il avait traitée avec Israël, et de même aujourd'hui entre nous et le Christ. Si nous rompons cette alliance de mariage, cela signifie que logiquement, nous pouvons rompre notre alliance avec Dieu sans conséquence. Et de ne pas tenir le mariage au sérieux signifie que l'on n'est pas restreint à tenir au sérieux son alliance avec Dieu. Dieu dit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car haïssable est la répudiation, dit l'Éternel. Cela, il dit en Malachie chapitre 2, les versets 15 et 16, et il le dit dans le contexte où il parle de son union avec Israël. Parce que là où il y a la répudiation, ça rompt l'alliance que les hommes ont créée avec Dieu. Et pour démontrer que les alliances durent éternellement, l'on trouve en certains écrits des prophètes, et surtout le prophète Osée, la métaphore du mariage en tant qu'exemple de notre alliance avec Dieu. Et bien sûr, le mariage est plus qu'une métaphore. C'est une réalité établie par Dieu au commencement pour le bonheur des hommes et des femmes, aussi bien que pour servir comme exemple du rapport que les hommes et les femmes doivent avoir avec le Créateur. Tout ceci dit, quel est le fondement de mariage qui dure? Quelles sont les attitudes nécessaires pour un mariage sain? Je vous suggère 4 réponses. Premièrement, l'apôtre Paul souligne l'importance d'un respect mutuel et d'un amour mutuel entre le mari et sa femme. Et ses premières paroles à la femme, en Éphésiens chapitre 5, si vous voulez lire maintenant avec moi, sont au verset 2, et dit « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. » Comme au Seigneur. Et ensuite, il dit au mari, au verset 25, « Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église qui est son corps. » Deuxièmement, Paul exhorte les époux à s'oublier eux-mêmes afin de penser d'abord à l'autre, même jusqu'à se sacrifier pour l'autre. Et cette idée de se renier soi-même est le sens premier du mot « amour » qui se trouve ici, en Éphésiens chapitre 5, c'est l'idée d'agapé. On pense à l'autre d'abord. La femme qui lutte constamment pour ses droits ne comprendra jamais la beauté et la profondeur des paroles de Paul au verset 24 où il dit « Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune, à son mari. » Et le mari qui n'a pas confiance en lui-même, qui ne pense qu'à lui-même et à ses besoins, doit lire la description de l'amour que Paul donne au verset 28 à 30. Il dit, « De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Et troisièmement, Paul exhorte les époux à s'oublier à eux-mêmes, le troisième fondement du mariage qui dure est l'engagement du corps et de la vie de chaque partenaire à l'autre et au service de l'autre. Vous pouvez trouver cela en 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 4, où Paul dit « La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. » Mais cette sorte d'engagement ne vient pas tout de suite. Bien sûr, on s'aime, on veut être aussi proche que possible, mais pendant la vie conjugale, on arrive à mieux comprendre, mieux connaître son époux, son épouse. Et cela veut dire qu'il faut toujours être ouvert à rechercher, à mieux connaître son mari ou sa femme, et cela implique donc la facilité ou la nécessité de communication. Il faut communiquer afin de se mieux connaître. Quatrièmement, Paul nous montre partout en Éphésiens chapitre 5, les versets 22 à 33, qu'un engagement exclusif à son époux ou son épouse élimine toute pensée et certainement toute pratique de l'immoralité sexuelle. Vous ne savez pas peut-être que le sexe est mentionné en Éphésiens chapitre 5, mais il est. Dans le sens que Paul appelle les chrétiens à être saints, comme lui, il a purifié l'Église, il nous demande d'être purs aussi, nous. Possédant donc les trois attitudes déjà mentionnées de respect, de l'amour mutuel, du reniement de soi et d'un engagement entier à l'autre, Paul conclut au verset 33 de Éphésiens chapitre 5, « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » L'auteur du Proverbe, chapitre 1, verset 7, a dit ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Lorsque les hommes et les femmes pensent ouvertement et honnêtement à Dieu, leurs cœurs en sont imprégnés. Le mariage et la famille sont des résultats directs de l'action créatrice de Dieu. Le mariage illustre bien l'amour et la vie qu'éprouvent Dieu et son peuple, l'Église. Le manque de respect pour le mariage que nous voyons autour de nous tous les jours peut être changé en respect. Au monde entier, et surtout autour de nous, nous les chrétiens, nous devons proclamer en parole et en action par notre bon exemple que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempte de ce lieu, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Peut-être avez-vous remarqué que ce matin, j'associais continuellement Dieu, Jésus, l'Église et le mariage. Bon, je ne l'ai pas fait pour faire du mariage un sacrement, parce qu'il ne l'est pas selon la parole de Dieu. Je les ai associés lorsque j'ai parlé des qualités de vie que Dieu ou que Jésus donne à chaque personne qui lui obéit. Et ces qualités de vie qu'il nous donne et qui sont nécessaires pour le bonheur et le succès du mariage et de la famille sont l'amour du prochain, le renoncement de soi-même, l'engagement entier à l'autre, la fidélité et surtout la soumission à Dieu. Que nous ayons chacun ces qualités et que nous ayons tous un respect saint pour l'institution de la famille créée par Dieu au commencement. Amen et merci.